projet-là. On n'a pas besoin d'acier du Canada, pas besoin d'aluminium, pas besoin de voitures du Canada. On parlait de subventions, c'est ça. Nous autres, on donne des subventions à l'auteur, je pense que c'est quoi? C'est 200 millions, 200 milliards?
Ouais, ça a été 100 à un moment donné. Après ça, c'est devenu 250. Là, c'est rendu 200. ça, c'est exactement la même chose que lorsque vous dites à votre épicier que vous êtes tanné de le subventionner pour acheter du Downy, des œufs et du lait. Là. Ouais. Ça, c'est évidemment, c'est un échange commercial. Le premier ministre Carney l'a rappelé que le Canada est l'allié le plus important et le client le plus important des États-Unis. Mm-hmm. Si on était dans un monde de licorne, puis je vois beaucoup de gens là, qui n'aiment pas M. Carney puis qui disent « Il nous a floué, il a eu l'air fou, il a vendu le Canada, il s'est fait remettre à sa place. » Tous ces gens-là, ils ont l'impression que dans une négociation comme celle-là ou même dans une conférence de presse comme celle-là, quand quelqu'un dit des bêtises comme nous n'avons pas besoin de vos affaires, ben on se lève puis on fout le camp en disant ben c'est correct, moi je t'en vends plus. Mmh. Évidemment, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut être un peu naïf pour ne pas dire de choses plus méchantes pour penser que c'est de cette manière-là que ça se passe. M. Carney, fin négociateur, a commencé par flatter le président Trump dans le sens du poil en lui disant combien il était un président qui allait transformer l'économie, qu'il était admiratif. Il n'y a rien là-dedans qui est vrai, sinon le fait que M. Carney sait que le président Trump, c'est quelqu'un qui adore se faire flatter, quelqu'un qui a un ego surdimensionné. D'ailleurs, ceux qui ne l'aiment pas, ils savent qu'il y a des allégations depuis plusieurs années que Trump serait une taupe cultivée par les Russes. Et comment il le ferait? Il le ferait en le flattant depuis les années 80.
Mm-hmm. Ouais. On a vu également, il faut trouver une bonne réponse quand même à M. Carney aujourd'hui concernant, bon, M. Trump parlait du 51e État, il disait, ah, ben, ça faut être deux, tu sais, pour danser cette danse-là, si on veut le transformer, le Canada en 51e État. Également, il a fait une allusion, il dit, moi, je suis un promoteur immobilier, tu sais, tout finit par s'acheter. Alors, M. Carney a eu une très bonne réponse à M. Trump à ce sujet, Marie-Ève.
Oui, en effet. Ben Mark Carney qui a dit, en fait, vous le savez, en immobilier, il y a des choses qui ne sont tout simplement pas à vendre. Buckingham Palace n'est pas à vendre, la Maison Blanche n'est pas à vendre. Et il lui dit, ben moi, j'ai fait le tour du Canada et j'ai parlé aux propriétaires du Canada dans les derniers mois. Et une chose est certaine, et ne changera jamais, le Canada n'est pas à vendre et ne le deviendra jamais. Mm-hmm. Évidemment, ce à quoi Trump s'est empressé de dire, ah, ne dites jamais jamais. Et ceux qui n'aiment pas M. Carney diront qu'il s'est fait rouler dans la farine en se faisant dire « ne dites jamais jamais ». Et ceux qui aiment bien M. Carney vous diront « c'était la bonne réponse, le Canada n'est pas à vendre ».
Oui, effectivement. Maintenant, je pense qu'il doit y avoir une autre rencontre entre les deux où je sais que M. Trump est supposé de sortir quelque chose là, prochainement là, concernant cette rencontre aujourd'hui. Là.
Oui, en fait, Trump, depuis plusieurs minutes, là, tweet sur son réseau personnel Truth Social et il le reprend sur Twitter en disant il y aura une très grosse annonce, très positive, une des annonces les plus importantes depuis plusieurs années. Rien ne démontre que ce soit en lien avec sa rencontre avec Mark Carney, là. Mais il s'amuse, hein, Monsieur Trump a créé de l'attente, il dit que ça arrivera vers 15h51. Mais bon, on sait très bien. Puis évidemment, mais tout le monde nous dit Monsieur Trump a triomphé, Monsieur Carney a plié les genoux. Monsieur Trump, il faut le rappeler, là, avait dit au début avril, le 2 avril, si je ne me trompe pas, que c'était le grand jour de la libération, que les États-Unis était désormais libre et que les tarifs des étrangers allaient être compensés. Et depuis ce temps, il ne fait que reculer sur recul sur recul. Mais ça, évidemment, ben les défenseurs de M. Trump vous diront que non, ce n'est pas vrai, ça ne se passe pas. On a de l'aveuglement volontaire.
Oui, effectivement. D'ailleurs, il a écorché un peu M. Trudeau aujourd'hui. Il l'a encore appelé Governor Trudeau et on comprend que c'était lui, précisément, qui faisait en sorte que les négociations et tout allaient pas bien entre les deux pays, là.
Ah, il a dit ça, puis il a parlé de la vilaine femme qui oui. était à ses côtés en parlant de Chrystia Freeland. Mais il faut bien comprendre, là, les spectacles de chaises dans le bureau ovale, ce ne sont que cela. Ce sont des spectacles. Chaque leader parle à qui il le veut bien. Monsieur Trump parle à sa base politique, il parle à ses électeurs lorsqu'il fait le frondeur, lorsqu'il répète des mensonges, lorsqu'il fait preuve d'une incapacité à comprendre le fonctionnement des tarifs entre les pays, lorsqu'il dit combien ils n'ont absolument besoin de rien, mais ils voudraient absolument qu'on devienne américain. alors que M. Carney, en ce moment, il n'était pas dans une opération pour séduire les Canadiens, sinon pour réaffirmer la souveraineté du Canada, mais il était dans une opération de charme pour flatter le président Trump et le mettre dans de bonnes dispositions pour la suite des choses.
Mm-hmm. Là, je veux qu'on... Ah, t'avais-tu une question, Martin?
Ben, je voulais savoir jusqu'à quel point ça pourrait avoir un effet positif sur le Canada, cette première rencontre-là. Est-ce que M. Carney a livré les attentes? Est-ce qu'il a été à la hauteur de ceux qui ont voté en masse pour lui là, lors des dernières élections, selon toi?
Ben, une chose est certaine. Personne ne pensait que cette rencontre-là allait se terminer par un deal, une poignée de main, puis une célébration et une grande signature au gros stylo. Monsieur Carney est allé là-bas adoucir les relations entre le Canada et les États-Unis. Il s'est présenté pour tendre une main pour négocier. Il a quand même répété ce qui n'était pas négociable, c'est-à-dire que le Canada ne serait jamais un 51e État. Mm-hmm. Ce à quoi le président américain a réitéré que les États-Unis continueraient de défendre l'espace canadien. Et ça reste un peu une question de contention. Là, on a l'impression que le président Trump aimerait que les pays alliés lui versent des dollars pour compenser l'armée. La situation géopolitique du Canada, la proximité de notre frontière, l'immensité de notre territoire, ben oui, force les États-Unis à défendre notre territoire, parce que quiconque pourrait vouloir envahir le Canada deviendrait immédiatement une menace aux États-Unis.
Oui, absolument. Parlons maintenant, on va changer de sujet un peu, Marie-Ève, si tu le veux bien. Il reste encore des élections à avoir parce que M. Poilievre, on le sait, il a été battu. Maintenant, il y en a plusieurs qui le voyaient au Québec à un certain moment donné. Il va décider plutôt d'aller se présenter du côté de l'Alberta. Et M.
Duhaime... Dans la circonscription la plus sûre.
La plus sûre, oui, oui. C'est
oui, là, on prend pas de chance. Là.
C'est 100% de chance qu'il rentre, là, c'est quasiment ça. Et M. Duhaime, Arthabaska a annoncé également qu'il allait se présenter. Et là, on demande un peu aux autres de laisser le champ libre pour M. Duhaime d'aller se présenter. C'est un peu ça qu'on entend.
Oui, plusieurs, entre autres, Denis Coderre. Oui, Denis oui. is back.
Hey, Denis
Coderre qui se porte à la défense d'Éric Duhaime en disant 500 000 Québécois ont voté pour Éric Duhaime. Tous sont d'accord pour trouver que ce n'est pas nécessairement juste qu'il ne soit pas, que son parti ne soit pas représenté à l'Assemblée nationale, alors qu'un nombre assez peu important de Québécois de plus ont voté pour le Parti libéral qui a 21 circonscriptions. Donc, il serait courtois de ne pas présenter de candidat de qualité contre Éric Duhaime pour lui assurer l'entrée à l'Assemblée nationale. C'est une question qui pourrait être débattue, là. Est-ce que Éric Duhaime a besoin d'avoir une passe sur la palette? Est-ce que c'est opportun de... Ça s'est fait dans certaines élections où un chef était nommé en cours de parcours, là, après le décès d'un chef ou le départ d'un chef,
ouais,
qu'on souhaitait favoriser son retour. Mais dans le cas d'Éric Duhaime, aucun de ses députés n'a été élu. Ils n'ont jamais été élus. La seule façon dont ils ont eu une députée, c'est au moment où Claire Samson a traversé la Chambre à l'Assemblée nationale.
Exact.
Il doit fort probablement vouloir être élu au suffrage universel dans sa circonscription. Ça devrait... En tout cas, c'est pas chose faite encore, parce que Éric Lefebvre, le caquiste, il laisse sa circonscription somme toute avec une bonne association militante. Mm-hmm. Mais M. Duhaime, au moins, a décidé de se présenter cette fois-ci. Souhaitons-lui une excellente campagne.
Ouais, d'ailleurs, je pense qu'on a 6 mois, là, de toute façon, avant de déclarer cette élection-là, si je ne m'abuse, Marie-Ève.
Il y a un maximum de six mois pour déclencher l'élection. Le parti qui est au pouvoir a en ce moment une question à se poser. Est-ce qu'ils veulent d'abord faire une élection maintenant qui sera coûteuse et donner un an et demi à Éric Duhaime, s'il entre à l'Assemblée nationale, de poser des questions et faire son temps et peut-être convaincre des gens, ou ils veulent repousser le plus tard possible, donc dans 6 mois, cette élection, au risque évidemment de se faire reprocher par les citoyens d'avoir dépensé des deniers publics pour rien, parce qu'en dedans d'un an, il n'y aura pas le temps de faire grand-chose avant l'élection générale.
Ouais, mais pendant ce temps-là, on va plutôt donner de l'argent à l'hôpital qui est dans ce secteur. Ça, c'est un autre dossier.
Oui.
Je veux qu'on termine avec la course au Parti libéral du Québec, Marie-Ève, en fin de semaine. Bon, on en a parlé un peu. On a un beau seron, d'ailleurs, qui se présente, Mario Roy, à la course à la chefferie. Somme toute, je pense qu'on a eu quand même, de ton avis, tu étais là, hein, on le sait. Pas de parti pris, mais quand même, je veux savoir un peu comment ça s'est déroulé, parce qu'on a senti quand même que ça a été courtois entre les différents candidats là, dans cette course-là.
Oui, pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, c'est moi qui suis l'animatrice des 4 débats en français de la course au leadership du Parti libéral du Québec. Donc, je ne prends position pour aucun des candidats, évidemment. Sinon, pour vous dire que l'animation était vraiment bien faite et l'animatrice était fort pertinente. Mais sinon, ce que je vous dirais, ben, c'est d'abord, oui, les premiers débats, parce qu'il y en aura plusieurs. Il y en a eu un en français et un en anglais. Les candidats se flairent un peu, se jaugent, veulent savoir comment les autres vont réagir, tentent de décider aussi s'ils veulent s'attaquer les uns les autres. Il y a une portion des débats qui leur est réservée individuellement pour présenter leur point de vue. Et ensuite, il y a une portion de débats ouverts. Alors, après la première portion de 5 minutes, moi, j'ai rappelé à messieurs que c'est un débat ouvert. Et ils ont été très polis, puis c'est peut-être parce que j'ai l'air assez directive, puis ils veulent pas me faire choquer, mais ils ont été disciplinés, ils ont demandé la parole, ils ont été respectueux des temps de parole, mais j'ai l'impression que dans les prochains débats, ils vont un petit peu plus sauter dans la mêlée. Ils doivent évidemment débattre, défendre des idées, mais ils ne veulent pas non plus déplaire aux personnes qui sont dans la salle, puis sembler agressifs, puis sembler essayer d'affaiblir un collègue, parce que c'est un vote préférentiel qui va être fait. Alors, vous ne votez pas pour un seul candidat, vous allez mettre dans l'ordre les candidats de votre préférence.
Exact,
donc, vous devez tenter de séduire même des gens qui ne voudraient peut-être pas voter pour vous en premier.
Exact. Et bon, on le sait, dans le passé, une course à la chefferie dans un parti, quand les deux à la tête se sont, on va dire, bousculés beaucoup, ben ça a fait mal. On se rappellera juste de l'ADQ avec Ricard notamment et puis Gilles Taillon, si ma mémoire est bonne. Ça avait fait très mal, cette course-là.
Ouais, une course à la chefferie, c'est souvent perçu comme un moment où on va diviser des gens qui seraient normalement d'opinion semblable.
Ouais.
On sent pas nécessairement ça dans la course actuelle. Ce qu'on a senti, par contre, puis là, je vais vous raconter un petit peu plus factuellement ce qui était, ben, c'est un vent d'intérêt. Il y avait plus de 500 personnes qui étaient réunies en personne à Laval. Il y avait salle comble, 250 personnes, des gens assis par terre pendant le rassemblement en anglais au collège John Abbott. Il y aura 3 autres débats, plus un débat de la commission jeunesse. On s'en va à Gatineau en fin de semaine prochaine. On vient à Québec, puis à Rivière-du-Loup. Donc, il y a un intérêt réel. Il y a plusieurs personnes qui ont regardé les diffusions en ligne. Je pense, en tout cas, que ça, c'est sain pour le Parti libéral, que le Parti a besoin de brasser ses idées, de bien comprendre qui sont les candidats. Il y a des candidats de qualité.
Ouais.
Et il vous reste, évidemment, jusqu'au 9 mai pour devenir membre. Ça vous coûte 5 $ pour pouvoir voter pour décider qui sera le prochain chef du Parti libéral du Québec.
J'ai beaucoup de gens qui regardent ça, là, peut-être parce qu'on le sait, là, au niveau des sondages, bon, la coalition Avenir Québec qui a descendu et c'est le PQ là, qui est en premier. Il y a beaucoup de gens qui disent, ben là, moi, je veux plus que ce soit la CAQ, mais mon option, c'est pas la séparation du Québec. Donc, on attend beaucoup. Il y en a plusieurs qui attendent après cette campagne-là, Marie-Ève, là, actuellement. Là. pour le PLQ.
Oui, plusieurs personnes veulent voir comment le Parti libéral peut peut-être changer sous un leadership différent. Chef par intérim depuis presque un an et demi, deux ans. Là. Une course qui a été relativement longue aussi. Une donne politique qui change. Paul Saint-Pierre Plamondon qui est résolument tourné vers le référendum et qui a de drôles de façons de réagir dans toute sa relation avec le Bloc québécois.
Ouais.
Québec solidaire qui ne semble pas